voudrais interroger à nouveau la question du savoir, dans la mesure où le savoir n'est pas la connaissance, et où s'approcher de ce qui est en jeu dans le transfert, mais on pourrait dire aussi bien chez tout être parlant, c'est partir de cette question. Freud ne l'a pas épinglé comme ça, mais pour la conseiller évident, hein, vous savez qu'il pose le transfert à partir d'une dénomination, savoir, supposé sujet, ou sujet, supposé savoir. Donc il y a le mot savoir qui est en jeu. Alors, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que la question du savoir, elle n'apparaît pas comme ça, et notamment l'interrogation sur le savoir, elle apparaît avec Descartes. Au point qu'on peut se demander, effectivement, avant qu'il en ait du savoir. Alors, on va faire un petit tour autour de tout ça, je pense. Et puis, ça va nous faire parler, je pense, un peu du christianisme, un peu de... du mythe aussi, et de ce qu'apporte de nouveau la découverte de Freud. Alors, la découverte de Freud, ça veut dire le dire de Freud, c'est pas le dit de Freud. On peut lire et relire Freud, de toute façon, on va pas le trouver comme ça. Et notamment, ce que nous transmet Freud, sans le savoir, et pour ça il faut un passeur, c'est Lacan, notamment. C'est-à-dire qu'il y a en fait un débat entre Freud et Lacan. Même s'ils ne se sont pas vus véritablement, il y a un débat constant. Ce que va trouver Freud, bien sûr, c'est l'importance de la sexualité. Ça, on en a déjà beaucoup parlé. Et Lacan va surtout articuler cette dimension de la sexualité par rapport à la langue. C'est-à-dire qu'il arrache la sexualité à toutes les critiques qui ont été faites à Freud et qui continuent. Hein. Bon. Vous savez ce qui vient d'être écrit dans un livre là-dessus. Hein. À savoir que le sexuel chez l'être parlant, c'est pas le génital d'une part, et c'est pas ce qu'on voit comme caractère sexuel. Ça, c'est le discours scientifique. Bien sûr, c'est ça, mais dans le cadre du discours scientifique. C'est-à-dire les caractères sexuels primaires, secondaires, tertiaires, qui vont être définis par Avogelis à la fin du 19e. Mais quand même un peu plus en avance. Donc ça pose la question du discours analytique comme pouvant transmettre qu'il y a un savoir du sexuel, qui n'est pas celui du discours scientifique, qu'on connaît tous. Hein. Ça ne veut pas dire que le discours scientifique n'ait pas de valeur. Les caractères sexuels, ça... La vérité, c'est l'épreuve de la réalité, donc c'est important, mais dans le cadre de cette réalité qui est la réalité du fantasme. Fantasme qui dépasse évidemment le sens habituel du terme. Je ne vais pas trop partir là-dessus parce que du coup je vais y passer un peu trop de temps. Je laisse ça comme ça. Et que, alors c'est là que l'avancée de Lacan est importante. Parce que ce que va nous transmettre progressivement Lacan dans ce débat avec Freud, j'insiste bien là-dessus, c'est un débat. C'est toujours à remettre en jeu. Il n'y a pas un jour quelque chose qui est défini une fois pour toutes. Ce qui pose bien des problèmes dès qu'on dit Freud a dit. Peut-être, oui. Et alors hein? N'importe qui peut dire Freud a dit, et quand il dit ça, il est parano, il est pervers. Oui, bien sûr, de chacun d'entre nous. Alors, L'importance dans ce débat que va apporter Lacan, c'est que l'être parlant, chacun d'entre nous, pas l'être humain, je laisse côté l'être humain, hein, c'est trop philosophique ça. Ou alors il faudrait ajouter un peu ce qui manque dans le mot humain. Le mot humain, on peut le considérer comme une contraction de quelque chose qui en reste. Hein? Et qui est l'humeur malsaine. L'humaine, c'est l'humeur malsaine. Et qu'on est loin du discours habituel. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est que ça. Mais il y a cette dimension-là qui, du coup, arrache à quoi ? Ben, à toutes les pensées qu'on a sur les humains, quoi. Et notamment un truc qui est sans doute important, mais qui n'est peut-être pas ce qu'on pense, qui est, par exemple, les droits de l'homme. De toute façon, le psychanalyste, il a, à mon avis, rien à faire avec ça. Pourquoi ? Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas à dire quelque chose, mais surtout pas à vouloir revendiquer quoi que ce soit par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que le psychanalyste est quelqu'un qui doit rester en retrait au lieu de ce reste de l'humeur malsaine, justement. C'est le travail de Freud dans Malaise dans la civilisation. C'est de ça dont parle Freud. Alors, à nouveau, il ne s'agit pas d'écrire ce que Freud a dit, de le répéter, c'est-à-dire d'être comme ça, de bégayer, hein, avec pas de dire les mêmes choses. Comme quelqu'un avait dit, le bégaiement du maître, de l'être, hein, c'est plutôt de pouvoir dire autre chose. Alors, le sexuel, évidemment, la sexualité, la découverte de Freud, même s'il ne le dit pas comme ça, j'insiste, hein, c'est qu'il y a un savoir sexuel particulier, et que l'inconscient a à être situé par rapport à ça. Alors, le savoir sexuel, eh ben, c'est tout simple, il va l'appeler Lacan S2. Écrivez deux comme vous voulez, S comme vous voulez, point d'interrogation, etc. Tout est dans l'écrit, pas dans l'écriture, dans l'écrit. Les écrits de Lacan, c'est ça. C'est quelque chose qui sonne, c'est quelque chose qui donne un certain trait particulier, donc une certaine lecture. Alors, ce savoir sexuel, c'est ça là. Même pas la révolution, c'est la révolution, ça a toujours une espèce de goût de fais-moi peur, hein. Faire peur à tout le monde, alors une révolution, voilà, révolution. Et reprend par exemple la révolution dont parle Freud, la révolution copernicienne, pour montrer que c'est quand même, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'a dit Freud. Bon, je passe. Mais pour montrer que ce n'est pas la révolution, c'est la subversion. Le problème, c'est d'être sub. Sub, et vous voyez le supposé. L'hypothèse, grec, subjectum, en latin. Le sub, la supposition de quelque chose d'autre. Le savoir supposé sujet. Ou le sujet supposé savoir. Et d'emblée apparaît une écriture avec une barre, et quelque chose qui peut franchir la barre ou pas. Alors, l'importance de ce que Freud, du savoir que Freud découvre, mais il n'a pas pu véritablement le préciser plus, ce qui fait qu'il prête le dos à toute critique, c'est que le savoir, le S2, le savoir sexuel en question, c'est quelque chose qui appartient à chaque être parlant de façon singulière. Pour le coup, on peut écrire 2D'8. Et il y a, alors, l'année dernière, j'avais intitulé le séminaire Hors d'eux. Il y a, chez chaque être parlant,
un au moins 3.
Ce qui va définir lui, quand il va proposer l'être parlant, comme étant le résultat du nouage de 3 éléments, réel, symbolique, imaginaire. Et là, on n'est plus dans la personne, dans la personnalité, on est dans autre chose. On est dans le fait de parler et dans le discours qu'il en résulte. Tout de suite, une remarque. On peut dire que nous sommes des animaux parlants, nous sommes un animal parlant, et le fait que nous soyons des animaux parlants au sens du langage va nous poser bien des problèmes, ce qui n'est pas le cas de l'animal, qui lui, en tant que tel, l'animal, on peut dire que l'animal, sa caractéristique, eh bien, c'est de ne pas connaître le nombre. L'animal, ça ne connaît que le 2, c'est tout, pour la copulation. Et en plus, il sait quoi faire de l'autre. Ça ne lui pose pas de problème. Oui, le langage, c'est à la fois quelque chose qui va nous parasiter, mais du coup, aussi, le langage, la langue, mais aussi, du coup, nous permettre de pouvoir créer quelque chose. C'est ça, de ne pas toujours être dans une stéréotypie, même si cette stéréotypie existe, bien sûr. Chacun a la sienne. Et du coup, ça nous amène à cette stéréotypie, à un certain mode, pour chacun d'entre nous, à un certain mode du jouir. Et de supposer l'inconscient comme lié à une certaine jouissance d'un... Alors, on va un peu... Je vais vite, mais... Il faut bien... comme la jouissance d'un lieu dont nous sommes radicalement séparés. On n'y a pas accès, en fait, c'est cette dimension du langage, justement. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois accès à quelque chose, à un savoir particulier, qui est donc ce savoir de la langue, pour bien montrer que c'est quelque chose qui n'a rien à voir, qu'on appelle la langue habituellement, en linguistique. Lacan écrit la langue en un seul mot, L-A-L-A-N-G-U-E, c'est une écriture, c'est plus exactement, c'est un écrit qui permet de dire que c'est quelque chose de particulier, sans pouvoir dire ce que c'est ça l'important, sans pouvoir dire ce que c'est. Et c'est ce savoir de la langue qui va être en jeu dans une psychanalyse, et ce qui est attendu d'une psychanalyse, alors ça c'est encore quelque chose de plus conséquent, c'est une production. Alors, et là on peut rejoindre tout le travail de Marx, par exemple, autrement que dans une lecture politique ou une lecture philosophique habituelle, c'est que ce qui est en jeu dans la productivité, dans la production, qui va conduire à la consommation, parce que c'est comme ça que c'est, et on est en plein dedans, hein, tous les niveaux, politiques, sportifs, etc., on est dedans, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui peut être produit, à ceci près que tout est fait pour que ce qui soit produit, c'est le manque du plus de jouir. C'est-à-dire qu'on soit toujours à côté d'un certain type de jouissance particulier, qui n'est pas le plaisir, bien sûr, mais qui est autre chose. Donc vous voyez qu'on est dans une situation particulière, singulière, propre à chacun, où, pour dire, le fait de parler, c'est de trouver une jouissance dans le parler. Évidemment, on ne pense pas à ça quand on commence, hein, bien sûr. Quand on commence, on pense qu'on va parler pour comprendre, pour trouver, je ne sais pas quoi, qui va expliquer, je ne sais pas quoi. Il faut bien passer par là. Ça, c'est toute la dimension du fantasme, et il faut bien aller là-dedans. Il faut bien aller dans ce labyrinthe. Parce que c'est un vrai labyrinthe. Et du coup, ça va m'amener à plonger, évidemment, dans le Dédale, c'est-à-dire chez Dédale, c'est-à-dire, nous sommes en Crète, en 15 siècles avant Jésus-Christ, 15-20 siècles avant Jésus-Christ, à Knossos, et il va se passer, c'est rapporté ça, hein, il va se passer quelque chose de particulier, vous savez, c'est le mythe du Minotaure. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Et en quoi ce mythe peut nous permettre de dire un peu quelque chose de ce que je viens d'avancer, c'est-à-dire de cette production du plus de joie? Habituellement, l'histoire est la suivante. Le roi de Crète, Minos, pour des raisons diverses, vous savez que les mythes, il y a toujours différentes versions. Ce qui est important, c'est que Claude Lévi-Strauss va dire que le mythe est intraduisible. Il a beaucoup travaillé ça, les mythes. Lévi-Strauss, ça veut dire quoi? Intraduisible, ça ne veut pas dire que du coup on ne peut pas traduire. Hein. Ça veut dire que c'est ouvert à tous les sens. Il n'y a pas une seule traduction. C'est ce que ça veut dire. Alors moi, je vais en proposer une autre, que j'ai un peu là-dedans, pour le moment, dans ce qui m'arrive. Alors, donc, le roi de Crète, Minos, a reçu un cadeau de Neptune, un taureau. Évidemment, les dieux, quand ils font un cadeau, ils attendent un retour. Le taureau doit être sacrifié. Et Minos ne respecte pas le contrat. Alors, Neptune décide de se venger. Je raconte l'histoire. Hein. Comment on peut raconter sa propre histoire, finalement? On sait que quand on a raconté ça, c'est autre chose qui vient. Encore une autre histoire, puis encore une autre histoire à la fin, on ne sait pas bien ce qui reste. Alors, évidemment, Neptune veut se venger. Ça, c'est ce que pense Minos, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et Minos est dans la position du roi, hein. Le roi n'est pas un sujet, c'est-à-dire que le roi, c'est celui à qui on ne la fait pas. D'autant plus que il a libéré Athènes qui était en proie à une peste. Donc, par un stratagème, il a pu arrêter la peste à Athènes. Donc, Athènes est en dette vis-à-vis de lui. Mais dans la politique, oui, Athènes, c'est en Grèce, hein. C'est avant la Grèce, tout ça. Hein, c'est... Bon, il y a la mer entre les deux, hein, c'est au sud, là, la Crète, Knossos. Et donc, la vengeance de Neptune est la suivante. J'insiste bien, hein, pour Minos. Alors pourquoi je fais cet homme? Minos, il est dans la position de celui qui sait, qui a un savoir. C'est le savoir du roi, du chef. Et donc, à qui on ne l'a fait pas, il ne peut pas être dupe. Quoi. C'est un non-dupe, hein. Tout à fait. Tant plus qu'il a libéré Athènes, donc on ne va pas lui faire, il a pu arrêter une calamité. Bon, alors, la vengeance de Neptune, pour celui qui est en position, Minos, on pourrait dire, il est en position de celui qui sait, c'est-à-dire, ce que Lacan va appeler le tout homme, qu'on soit homme ou femme, ne change rien. Hein. Il ne suffit pas d'être sous la bannière du féminin pour ne pas être dans cette position-là. C'est-à-dire qu'il est dans ce qu'on appelle la fonction phallique, c'est-à-dire qu'il est dans ce savoir qui, lui, justement, ne prend pas en compte la dimension du 3. Il est dans le 2. C'est-à-dire dans la pensée, dans l'être. Ce qui fait que ben, l'amour passe à la haine, c'est ça le binaire, hein, sans problème. La vraie amour débouche sur la haine, comme on dit. J'aime, tu aimes, il aime, ça va conduire à la haine. Bon, alors, Minos, toujours lui, on va penser que c'est un rêve de Minos, finalement, cette affaire. Mais il faudra l'analyser, justement. Ce qui va arriver à Minos, c'est la chose suivante, c'est que sa femme, Pasiphae, qui est la fille d'Hélios, du dieu soleil, va tomber amoureuse du taureau. Bon. Et de cet amour, alors vous sentez la culpabilité, surtout pour nous les christianismes et tout ça. Hein. Parce que nous on l'interprète depuis maintenant, évidemment. Hein. De cet amour coupable, il va en résulter une union. On dit que Pasiphae a trouvé un subterfuge, une façon de considérer la femme, on pourrait dire, à l'image de l'homme. Après, c'est trouver une vache comme ça, un taureau, il va se tromper. Il y a donc eu un rapport sexuel au sens génital du terme. Et le résultat, c'est donc cet être mi-bête, mi-humain, qui est le Minotaure. Il y a le mot Minos dedans, et Taure, c'est donc le taureau. Alors, il y a une preuve du rapport, et comme ça se passe, hein, vous savez comme ça se passe chez les humains habituellement, c'est qu'à partir de ce moment-là, il faudrait disparaître le produit. Donc, Minos demande à l'architecte, qui s'appelle Dédale, qui a déjà fait des palais pour Minos, Knossos, et des palais splendides, il lui demande de construire un labyrinthe pour mettre le Minotaure, pour que personne ne puisse être troublé, affecté, je dirais contaminé par cette affaire-là. Ça, c'est donc à peu près l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Parce que c'est bien logique, ça. Hein ? On a tous les éléments pour faire la cuisine de l'humeur malsaine. Hein ? Il y a tout là, il y a tout là. Hein ? L'humain, hein ? L'humain, il y a tout. La femme qui trompe, etc., elle est amoureuse, hein ? Bon. Cette espèce d'amant particulier, bon, voilà. Est-ce qu'on peut dire autre chose ? Alors, autrement dit, est-ce qu'il est possible de trouver là-dedans quelque chose qui soit subversif, comme je me... pas explicatif, subversif. Alors moi je dirais ceci, je vais prendre à l'envers, chose. Je dirais que le Minotaure, alors là c'est évident, c'est un produit. On va dire ça, c'est un produit. Hein, c'est la plus-value, la plus-value de Marx. Que Lacan dit, c'est la Marx Lust. La plus-value de Marx. C'est-à-dire la mère. Quelque chose, mère ça veut dire plus en allemand, hein. Mère verte, plus value de Marx. C'est-à-dire que tout le discours de Marx, en fait, est tout à fait intéressant. Il est passé sa vie. Hein. En fait, il y aurait peut-être finalement le seul truc intéressant dans le discours de Marx par rapport à ce qu'on est en train de dire. Ce serait de pointer que finalement, ce qui est important, c'est ce qu'il a dégagé dans cette économie du capitalisme. Tout ce qu'il a décrit, qui est tout à fait vrai, au sens de, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la réalité du fantasme, c'est bien ce qu'on appelle le vrai. Hein. C'est pas du tout de l'imaginaire, au sens de là. C'est de l'imaginaire, mais pas au sens habituel du terme. Mais, est-ce qu'on pourrait pas partir de la chose suivante ? Enfin, c'est ce que je propose, c'est que le Minotaure, c'est un produit, c'est un plus de jouir. Voilà, plus de jouir. Qui résulte de quoi ? dans le cadre d'un discours, qui résulte de la rencontre d'un savoir particulier qui nous échappe et à quoi permet d'accéder à la dimension du féminin par le biais de Pasiphae. Alors vous voyez, le féminin qui n'existe pas, la femme qui n'existe pas, dont parle Lacan, c'est vraiment un élément de discours. Et du coup, il en résulterait que là, ce mythe peut être une monstration, et je glisse pas du tout dans la séduction de l'imaginaire du monstre, hein, c'est pas ça qui m'intéresse. Hein. Monstration, pour moi, ça veut dire quelque chose qu'on n'a pas à démontrer. Parce que dès qu'on se met à démontrer, on arrive dans le savoir binaire. Hein. C'est quelque chose qui simplement montre le fait que depuis toujours, depuis qu'il y a des êtres parlants, et poser cette question du plus de jouir. Et que, évidemment, ce que va décrire Marx, c'est qu'il n'est pas du tout question, ce qu'il va trouver dans le discours du capitalisme, c'est qu'il n'est pas du tout question que le travailleur puisse accéder à ce plus de jouir. Il est là, comme le consommateur, pour fabriquer quelque chose qui va conduire à la production de quoi ? Par tous les gadgets, tous les machins, tout ce qui existe dans la consommation. La production du manque à jouir. On est tous plus ou moins acteurs de ça. On produit du manque à jouir. C'est pour ça que la psychanalyse est importante. C'est la seule expérience, si les psychanalystes restent à leur place, hein, s'ils se mettent à les défiler ou je ne sais pas quoi, défendre trois hommes, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité de cette expérience-là. Ils sont absorbés dans le discours. Si on est absorbé, on est dedans. On est dedans. Et donc le labyrinthe donc, en question, bien sûr c'est important, mais vous voyez que ce qui est important, c'est de le dédale en question, là. Alors il y a encore autre chose, après, Linus il va mettre dédale, il va mettre Ariane évidemment qui a filé le. Vous savez, à Thésée le fil, enfin, qui a pu définir comment sortir après avoir tué le Minotaure. Ouais, c'est incroyable les histoires qu'on raconte horribles. Hein. C'est incroyable, on aime raconter des choses horribles. Hein. Parce que ce qui est raconté, c'est quand même. Ben, c'est un peu ce qui peut se passer dans l'histoire avec quelqu'un. Hein, aussi, hein, je veux dire, choses horribles. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a que ça qu'on retient, en fait. Ça, c'est facile à retenir, hein, ces choses-là. Mais cette production-là de choses qui sont horribles, eh bien, c'est comme la consommation, c'est comme la production industrielle de toutes sortes de choses qu'on va consommer. Ben, on voit où ça nous conduit. Mais il n'y a pas à dire que ça ne doit pas exister, puisque ça existe, dans le discours capitaliste notamment. Puis, vous savez, celui qui n'est pas capitaliste, il ne fait pas mieux, hein, parce que finalement, c'est quand même du capitalisme. Hein. Alors, les totalitaristes ne changent rien. Hein. Bon. Alors, tout ça pour dire que, c'est ce que je voulais vous. Qui peut vous illustrer ça, montrer que l'enjeu d'une psychanalyse, c'est pas de faire que le manque manque. Ça, c'est l'angoisse. Que le manque de jouir manque. C'est d'accéder au plus de jouir. Et suivant qu'on écrit, qu'on le lit le plus, PLU, ça s'écrit de la même façon, c'est ça le savoir de la langue. Ça peut être le plus de jouir ou le plus de jouir. C'est-à-dire que la formulation elle-même, pour dire, c'est l'enjeu de ce qui est, de ce que, par exemple, ce mythe peut permettre de faire sentir, à savoir que ce produit, c'est-à-dire le Minotaure, c'est le produit de quoi ? De la rencontre, on pourrait dire, de cette... Hein, si on se réfère, par exemple, à Dionysos, qui revenait de... Lui aussi de la mer, hein, régulièrement pour s'unir à la reine d'Athènes. Pendant ces trois jours-là, c'était la fête, toutes les lois qui existaient n'avaient plus lieu. Hein. Eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est la rencontre de quoi ? Ben, de, on va dire tout simplement, hein, du flux vital, de la pulsion de vie. Mais attention, il ne faut pas l'apprendre au sens de Freud. Souvent, il est là piqué chez les philosophes, notamment, je crois, chez celui des sandales d'Empédocle, hein, pour en faire quelque chose de binaire, c'est pour faire une opposition entre pulsion de vie et pulsion de mort. C'est pas ça le problème. C'est quand, c'est comment, ce qui est la turgescence de la vie, la turgescence du phallus, au sens on peut en parler, rencontre quelque chose qui est cette dimension du féminin. donner naissance à quelque chose de nouveau, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est toute la civilisation, toutes les civilisations n'ont jamais voulu entendre quoi que ce soit de ça. C'est-à-dire que la civilisation, c'est fait pour dresser les gens dans des clôtures. C'est pour ça. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt, hein, je ne suis pas contre. Hein. Mais malaise dans la civilisation, pas par là. C'est mieux que l'anarchie, hein, bien sûr. Mais il faut savoir qu'on a en nous quelque chose qui est... Surtout si on est très révolutionnaire, je pense. On a vraiment envie d'ordre. Surtout si on n'arrête pas de se révolter. On a un grand besoin d'ordre. Pour toutes ces raisons-là. Comme si ce plus de jouir, cette production particulière, qui conduit à un autre rapport, parce que je vous dis, c'est quoi? Parce qu'il nous arrive à la vie, pas la pensée. La pensée, c'est Minos. C'est Minos dans son truc. C'est la construction du labyrinthe, la pensée. Et la pensée, ça va être le labyrinthe. On va passer son temps à courir de droite à gauche parce que la pensée, elle décharge en permanence. Et puis, allez, c'est parti. C'est parti. Puis encore ça, puis encore ça, puis encore ça. Donc, c'est important l'histoire du Dédale, c'est-à-dire du labyrinthe, en hommage à ce Dédale, là, cet architecte. Mais, à condition de prendre la mesure du fait que, en quelque sorte, ce qui est construit là, d'une certaine façon, savoir, avec l'importance de quelque chose qui nous colle à la peau, qui est la dimension du fantasme. Donc il n'est pas question de dire que ça n'existe pas. Hein. Et, ou, on peut encore dire ça autrement, plus simplement, de tout ce que Lacan va appeler la dimension de l'imaginaire. Mais tout ça, ça renferme quelque chose, ça vient recouvrir quelque chose, qui est ce qu'il va appeler l'objectita, l'objet cause du désir, qui est quelque chose qui a à voir avec ce plus de jouir dont je parle. Et que l'important, vous voyez, c'est quoi? Ce que nous transmettrait, d'une certaine façon, Dédale, c'est le lien entre le labyrinthe, cette construction de la pensée, et puis, ben, ce quelque chose qui est présent, mais qui n'advient que si on sort de l'opposition, labyrinthe, c'est-à-dire caché, et révélé. Puisque le Minotaure en fait en question, bien sûr qu'il est caché dedans, mais d'une certaine façon, eh ben, il est dans chacun d'entre nous, d'une certaine manière. Alors, tout ça pour arriver à dire, et puis je vais finir là-dessus, je vais donner une petite coulée sur le christianisme à partir de là. Alors, donner une couche là-dessus. Le christianisme, il arrive après, bien sûr. Mais on pourrait dire que c'est ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la civilisation, du moins habituellement l'humain, il fait tout. Hein, après les Grecs, tu vois. Si vous êtes allé un peu en Grèce, on va arriver avec Agamemnon, toute cette lignée-là. Hein, c'est pas rien, ça. Hein, qui va succéder à la Crète. Hein, et après, on va arriver plus particulièrement à l'union qui va constituer la Grèce. Mais dans l'histoire, en fait, on va dire que tout ce qui va constituer l'humanitairerie, l'humanitairerie, c'est beaucoup mieux. Pas l'humanitaire. Alors, je ne parle pas de ceux qui promenaient des sacs à dos. Hein. L'humanitairerie, c'est fait pour masquer quoi? Ben, le fait qu'on est des bandits, quoi. On est des délinquants. Tous. Hein? Surtout si on prône là. Surtout si on prône la tempérance, la sagesse. Ouais. Si on prône, on prône. Bon. Alors, le christianisme, un petit coup là-dessus. Comment on peut en parler? Moi, j'en parle à partir de là. C'est-à-dire à partir de ce qui m'a animé, puis de ce qui m'anime, puis je suis très content d'être passé par là. Hein, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est que le christianisme, il arrive à un moment, bien sûr, alors là, les martyrs, les catacombes, tout ça, bon, on va pas en remettre là-dessus. Hein. les réunions, les persécutions, tout ça, Néron, oui, c'est vrai. Hein? Mais, ce qui est important, c'est de comprendre quoi? C'est de comprendre que le christianisme va se développer, parce qu'ils vont trouver un truc fantastique. C'est que le mode de jouir qui existait chez les Romains, pensez-vous, à ce qui se passait dans les thermes, et tout se trouvait dans les thermes, hein? Tout, les bains de jouissance, hein? Les prostituées, il y avait tout. Tout ce qu'on voudra, tout était permis. Ça ne veut pas dire du tout que c'était ça, mais tout était possible. Eh bien, ça n'empêchait pas, évidemment, qu'il y avait déjà l'amour courtois. C'est-à-dire que Catulle, c'est un siècle avant Jésus-Christ, il écrit des odes à Lesbie, qui est une femme romaine de la haute société romaine, et qui est très volage. Et il en est tombé amoureux, donc il a écrit, c'est ce qu'on va trouver après. 12e, 13e, c'est la même chose. Bon, eh bien, le succès du christianisme, il est lié au fait que, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas l'histoire de la croix du péché originel. Ça, c'est comme le Minotaure, c'est pour nous paumer dans le labyrinthe. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas vrai. Insiste bien. Et puis là-dessus, on peut y aller, parce que les Juifs vont dire que, bien sûr, ce qui est important dans le christianisme, c'est le péché originel, et puis la culpabilité, puis tout ça, puis voilà. Bon. Ben oui, mais ça, c'est vrai. C'est une certaine pensée particulière. Hein. C'est pas ça l'important. L'important, par rapport à ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire à partir du discours analytique, tel que j'en parle ce soir, un petit peu comme ça, pour rendre hommage un peu à Lacan, bien sûr, et puis à chacun d'entre nous. À ça, hein. Puis hommage, vous suivez la langue, c'est dommage. Et le dommage, ben, c'est la dette. Hein. C'est pas, ah, qu'est-ce que c'est dommage qu'il soit plus là. Hein, ça, c'est... Ce week-end à Paris, on a parlé de rendre un hommage à un psychanalyste argentin. J'étais le seul à faire le rapprochement entre hommage et dommage. Hein. Ils sont allés, ils ont fait des trucs, ils ont construit ça dans la tête, c'est tardant. Bon, alors, revenons à la langue. Bon, alors le christianisme, c'est quoi? C'est le fait qu'ils ont développé une production de quelque chose, alors ça passe par la culpabilité, qui est le manque à jouir total. La preuve, les rapports sexuels ne serviront qu'à la reproduction. Bon. Et ce qui est étonnant, c'est que ça dure depuis 2000 ans. Donc tout ça pour montrer que il y a quelque chose en nous, cet ordre dont je parlais tout à l'heure, qui nous conduit dans cette direction-là. Alors, ceci, bien sûr, a conduit au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, à une telle détérioration des rapports entre l'homme et la femme, hein, que ben, tout d'un coup est apparue une étincelle, c'est l'amour courtois. C'est-à-dire qu'il a été institué par la réalité, l'absence de rapport sexuel entre l'homme et la femme. Sacré trouvaille, hein, bien avant que... Et quand on en parle, dans le discours, c'est pas le rapport génital. Enfin, le fait qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça qui remettait en valeur la dimension, on va dire, du féminin, hein. Et puis après, la Renaissance balaye tout ça, hein, on fait ressortir toutes les antiquités qui étaient dans les caves, on les ramène, hein, les Grecs, les Romains, tout ça, on les déballe. Donc on a perdu, on a sorti les antiquités ici. Bien, hein, de savoir tout ça. Mais cette dimension du rapport à la jouissance qui était chez les Romains, notamment, ça ne réapparaît plus. Hein. C'est fini, à tout jamais. Et alors après, quand arrive celui dont je vous parlais tout à l'heure, alors là, René Descartes, hein, ben c'est la pensée, c'est l'interrogation du savoir, et c'est des lumières, etc. Donc, et puis après, c'est la pensée scientifique, etc. Et puis ça, tout ça, ça va durer jusqu'à ce qu'un jour, un abruti va se mettre à écouter dans des femmes qui venaient parler, à Vienne, Sigmund Freud, et puis que la dimension du sexuel, c'est-à-dire, pas du foutre, c'est-à-dire que ce rapport à la jouissance, hein, puisse être pris en compte. Alors, je vais m'arrêter là-dessus aujourd'hui, c'est-à-dire sur l'importance. Du fait que le savoir de la langue, dont nous sommes en quelque sorte
dont il nous est possible d'approcher par quoi ? On va revenir à Marx. Par ce travailleur infatigable qui est l'inconscient, comme dit Lacan. L'inconscient, c'est un travailleur infatigable. Mais il produit, l'inconscient, il produit le plus de jouir. Il ne produit pas le manque de jouir. Ça pourrait être une différence entre la psychothérapie et la psychanalyse. Dire des choses comme ça. Et il n'y a, on pourrait dire que dans cette expérience particulière de la psychanalyse, parce qu'on laisse les gens parler, simplement. Voilà. C'est pas forcément bien agréable pendant un certain temps, mais après. Et ça permet de trouver quoi ? C'est qu'un avis. Ça permet de trouver la jouissance qu'il faut dans le parler. C'est pas dans le rapport sexuel. Dans le parler, une citation de Lacan, pour que l'histoire continue. C'est qu'il y a vraiment une histoire qui se développe, non pas la répétition, toujours les mêmes trucs. Voilà, on va s'arrêter là-dessus, puis on reprendra.